Actu SF, les podcasts.
Hergir Barker, bonjour.
Bonjour.
L'âge des assassins est votre premier roman publié et traduit en France. Pouvez-vous nous parler de votre parcours littéraire ? Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture ?
I stopped going to school because I was going to be a rock star, and I had great hair, which was fantastic, but absolutely no musical ability, which held me back somewhat. And then I played in bands for a long time, until eventually realizing that I was rubbish, and I went back to my first love, which was books. But because I'd not paid attention at school, I had to teach myself to write all over again. I'm quite stubborn, so I wouldn't read about how to write. And I think the book has a my agent signed it because he said, you have a very particular voice. And I think that's because I don't really know what I'm doing. And it took about 12 years. Took about 12 years from starting and deciding this is what I wanted to do because I love books to ending up in a place where I had a book come out, so it was very. It's all been really exciting and brilliant.
Donc il faut que vous partagiez le You Have to Share. I'm afraid.
Donc j'ai arrêté d'aller à l'école assez tôt parce que je considérais que j'allais devenir une rock star. Donc j'avais déjà les cheveux gris, donc c'était parfait. Mais en fait, j'avais aucune capacité d'un point de vue musical. Donc j'ai fait partie de groupes pendant des années avant de me rendre compte que j'étais vraiment trop nulle. Et du coup, j'en suis revenue à mes premières amours, donc la lecture et l'écriture. Étant donné que je n'étais pas allée à l'école bien longtemps, il a bien fallu que je m'auto-enseigne comment écrire. Et en fait, mon éditeur m'a dit un jour que j'avais une voix très particulière dans mon récit. Oui, c'est principalement parce que je ne sais pas ce que je fais, en fait. Il m'a fallu 12 ans entre le moment où j'ai décidé d'écrire un roman et la publication du roman. Donc ça a été une aventure merveilleuse.
Et comment est née cette histoire ? Why this story?
I'd written. I love books. I'm a tart. I don't sort of any genre. It doesn't really matter. And I'd just written a science fiction book, which had very nearly sold. And I had a very long conversation with an editor about Agatha Christie, who's an author I love. I love all those sort of classic crime fictions. And I think as part of that, something lodged in my head somewhere. And my agent at the time had told me, he'd said, "Oh, write a serial killer on a space station novel, because there are editors that like you and would buy that." So I started writing that, and this idea for this book would not go away. So I got back in touch with my agent and said, "I've had this other idea, and I'd like to write it." And he said, "A first-person crime fantasy novel will be a very hard sell unless it's really good." What he meant was, don't write it. And what I heard was, it has to be really good. So I wrote it, and me and my agent parted ways. And then I finished it, and I'd always heard people say, you know, when you've written a book that'll sell, you know. And I thought, no, you can't. You can't know. But I finished that, and I did. And I was kind of left in a no man's land for about 6 months until I got my new agent, Ed Wilson from Johnson & Alcock. And if he watches this, hi, Ed. He's lovely. And we went and we sold it to Orbit in the UK. And I've completely forgotten what I'm talking about, but it was it has been the most amazing trip. But I wrote it in 6 weeks because the idea was so fully formed in my head, and Girton's voice was it. I don't believe that characters have their own agency, but it is, when I sit down and write them, like he's whispering the words in my ear. There's no thinking about it. It just, when I sat down to write the third one, I knew the end and had no idea about anything else. And I just sat and I wrote through it in about 3 months, and it's just been so easy. Now I'm not writing those, and it's not.
euh, Alors en fait, j'ai toujours aimé lire, et tout type de livres, hein, pas forcément que de la fantasy. Alors à un moment, j'ai essayé d'écrire de la science-fiction, ça s'est presque vendu, et en discutant avec mon agent de l'époque, on a commencé à parler d'Agatha Christie, que j'aimais beaucoup, et je pense que l'idée m'est restée en tête depuis cette conversation-là. Alors mon agent m'avait conseillé d'écrire l'histoire d'un serial killer dans un vaisseau spatial. Oui, bon, moi je suis allée le voir avec une autre idée en lui disant, bah moi je voudrais plutôt une histoire de meurtre écrite à la première personne. Et lui, ce qu'il m'a répondu, c'est vraiment ce genre de roman, enfin pour que ça fonctionne, il faut vraiment que ce soit super bien écrit. Lui, ce qu'il voulait me dire, c'était ne l'écris pas. Moi, ce que j'ai entendu, c'est ça a intérêt d'être bon. Du coup, ben après, on s'est séparés avec mon agent, bizarrement. Et on entend souvent dire les gens que quand on finit d'écrire un roman, on sait s'il va se vendre ou pas. Je me suis toujours dit que c'était des bêtises. Et en fait, si, quand j'ai eu fini, je me suis dit que si, ça allait marcher. Alors pendant 6 mois, je me suis retrouvée un peu entre deux eaux parce qu'il fallait déjà le temps de retrouver un nouvel agent. Donc j'ai trouvé Ed Wilson. Bonjour Ed, si jamais il entend ce message. Et du coup, donc c'était mon nouvel agent. On a réussi à vendre les droits à Orbit en Grande-Bretagne. Je ne me rappelle absolument plus quelle était la question. En tout cas, c'était un voyage fascinant. Et ensuite, donc j'ai écrit le roman en 6 semaines. J'avais vraiment la voix de Girton, donc c'est le personnage principal. C'était un peu comme s'il me murmurait à l'oreille. Je ne pensais pas que c'était possible, mais je n'avais pas besoin de réfléchir pour écrire. Et quand j'ai écrit le troisième roman, je savais comment ça allait se terminer, mais je ne savais absolument pas comment on allait en arriver à la fin. Et je me suis assise, j'ai écrit, et ça a été extrêmement facile. Et je vais vous avouer tout de suite que là, en ce moment, j'écris autre chose, et ben c'est vachement moins facile.
Le personnage principal de L'Âge des Assassins est Girton, un jeune homme de 15 ans qui est affligé d'un pied bot. C'est plutôt une rareté dans le monde de la fantasy, non? Pourquoi ce choix?
I got very ill about 15 years ago. I have Crohn's disease, but we didn't know what it was, and I was just losing weight and in constant pain, and it attacks your joints, and I found it very difficult to walk, and so the experience of constant pain and of being I've always been a bit of an outsider, but it's another level of being an outsider to be seen as disabled. And I also have, I think people should be able to see themselves in books. And this is a slight, I'm just going to go off script for a bit. Sorry, Helen. I had a chap come up to me who had cerebral palsy, and he said it was such a pleasure for him to read a book in which a disabled character did not need looked after. And that was what I wanted to get across, that he's not his disability. That's just a part of him. And to be disabled or different in any way. And we're all, everybody is slightly odd in some way. And I think that's fantastic. And you should embrace it. And that is with him. He carries on despite, not because of. And that's what I wanted to. That's why he's got a club foot. And also, a club foot does not stop you killing people, which was quite important. I couldn't sort of taken away the use of his legs completely, because he would have been a rubbish assassin in that case.
Il y a environ 15 ans, je suis tombée malade. Donc c'est la maladie de Crohn, mais à l'époque on savait pas ce que c'était. Donc je perdais du poids, j'avais mal aux articulations. J'étais constamment, je souffrais constamment. J'ai toujours été un outsider, et c'est encore une autre façon d'être un outsider que d'avoir un handicap. Et je pense que les gens aiment lire des personnages dans lesquels ils peuvent se reconnaître. Et du coup, là, je vais encore partir un peu de travers sur les idées, mais il y a quelqu'un qui est un jour venu me voir en me disant que c'était vraiment super de voir un personnage en situation de handicap, mais qui n'avait pas besoin qu'on s'occupe de lui. Qu'il n'était pas uniquement son handicap. Je pense qu'on a tous nos petites différences. Tout le monde est un peu bizarre à sa façon. Et je pense que c'est quelque chose de positif et qu'il faut vraiment l'accepter et aller de l'avant avec ça. Et en plus, franchement, on peut toujours tuer les gens, même quand on a un pied beau. C'est absolument pas un problème.
Girton a travaillé dur pour devenir l'apprenti de Merella, non ? D'autant plus avec quand même son pied beau.
Yeah, and I think the other thing is that he had no choice, and I think it, comes especially in that book that maybe given a choice that's not what he'd have gone for. Mm. And I think it is hard on him to be what he is, and the idea of his disability feeds through the other three books. There's a reason for it. Okay. That is not given in this book, that yeah. that if you choose to read the other two, which hopefully you will, you will find out eventually. Although this is a complete story, it's kind of it lives by itself. But yeah, I think it's. I'm not sure he works hard as much as it's mentally hard on him. If that little bit of difference yeah. makes it. Oh, come on, hurry up, Helen.
That's just me. Whatever.
Alors, je pense que le plus difficile pour lui, c'est qu'il n'a pas le choix. S'il avait eu le choix, il n'aurait pas forcément choisi d'être un assassin. C'est difficile pour lui. Et techniquement, son handicap, en fait, il y a une raison. Alors, on ne le voit pas dans le premier roman, on le verra par la suite. Si jamais vous décidez de lire les livres suivants, ce que j'espère. Mais le premier peut se lire tout seul. Hein. Vous n'avez pas besoin, vous n'aurez pas besoin d'attendre les deux suivants désespérément. Il y a une histoire complète dans le premier roman. Bref, je pense que ce n'est pas tellement qu'il doit travailler dur pour devenir un assassin, mais pour lui, c'est dur mentalement et c'est un peu différent encore.
En France, on classe votre livre dans la crapule fantasy. Est-ce que pour vous, ça vous parle? Est-ce que vous connaissez ce terme?
I think the expression we use in the UK is grimdark. Mm-hmm. And I don't know if that's slightly... No, is the answer. But I'm fascinated by history, and there's a lot of history is in it, in a kind of way that meant I didn't have to do any research because I'm lazy. But I think the other thing is, he's not a bad person. Mm-hmm. He's probably... As much as you can be not a bad person if you're a hired murderer, he's not. And when he does things, I think he's doing them for what he sees as a moral and right reason. I wanted to write someone that I could be friends with. I don't think I could choose to write a book with somebody that I couldn't spend time with because I wouldn't want to write it.
Alors, je crois qu'en anglais, on parle de grimdark fantasy, mais bon, bah, clairement, je ne connais pas. Hein, la crapule fantasy, je ne connais pas. Alors, personnellement, j'aime beaucoup l'histoire et j'ai voulu écrire beaucoup d'histoires où je n'avais pas besoin de faire des recherches parce que je suis un gros feignant. Donc, je voulais écrire aussi... je voulais aussi écrire un personnage qui n'était pas mauvais en lui-même. Alors, autant qu'on peut ne pas être mauvais quand on est un assassin, hein, qui se fait donc payer pour tuer des gens. Ça n'empêche qu'il a un certain sens de la moralité. Et je voulais écrire un personnage avec lequel j'aurais pu être amie, parce que sinon, c'est très difficile de passer autant de temps avec un personnage si on n'aurait pas pu l'aimer en vrai.
It's dark, but it's hopeful. That's the thing.
Donc le roman est sombre, mais plein d'espoir.
Justement, parlons des valeurs de Girton. Est-ce que sa première valeur, vous diriez que c'est sa loyauté envers sa maîtresse, Mirella?
Yeah, I became a parent about 2 years, 3 years, before, no, 4 years before. I forgot how old my child is. Sorry, child. he has a name and everything as well, but I won't forget anything. But it informs the book because their relationship is parent and child. It is not, and I see her as this. She's quite a. Are you going to ask a question about her?
Maybe.
Because if you are, I'll wait. But he has a huge loyalty to her, and it is total. Because he's aware that his life would have been worse without her. But also I see her as kind of an avatar of parental love in that it is utterly fearsome. And I kind of think that if you crossed her with him, she would be terrifying. And that is, and there's kind of other, because I know all three. It's really difficult. But yes, his loyalty to her is total. And he loves her in a kind of parent, childish fashion. And in this book, I think is where he's. This is about him learning that she is not. She's not a superwoman, and he refers to her as the greatest assassin in the land, and no one's picked up that that might not be true. That's his idea of her, and a lot of what's in this book is his view of the world, as opposed to how the world actually is. And in the other books, you probably learn that maybe it's not the case. But yeah, that loyalty goes both ways with them. It's a very strong bond there, and I like that.
Alors en fait, je suis devenue parent il y a 4 ans. Alors je vous assure, hein, j'ai un enfant, il a un nom et tout, mais c'est juste que j'ai un peu du mal avec les dates. Et du coup, c'est vrai que dans ce roman, ça s'est ressenti pour la relation entre Mirella et Girton, qui est une relation parent-enfant. Alors effectivement, il est extrêmement loyal envers elle, parce qu'il est déjà très conscient que si elle n'avait pas croisé son chemin, sa vie aurait été bien pire. Et vraiment, elle représente l'amour parental. Donc il est extrêmement loyal envers elle. Il l'aime comme un enfant. Je pense que dans le premier roman, il se rend compte que elle est peut-être pas... Il la voyait comme en gros superwoman, et en fait, c'est pas tout à fait le cas. Lui, il a décrété qu'elle était le plus grand assassin qu'on pouvait trouver. Mais c'est son point de vue à lui. C'est aussi dans ce roman, on voit son point de vue sur le monde. Et peut-être que dans les autres romans, on va se rendre compte que c'était vraiment son point de vue à lui et que c'est peut-être pas la vérité pour les autres. Mais en tout cas, ils ont vraiment une loyauté, mais ça va dans les deux sens, en fait. Il est loyal envers elle et elle est loyale envers lui également.
Effectivement, sa maîtresse l'a arraché à l'esclavage et lui a appris à se battre. Mais ce qui est un peu étonnant, je trouve, c'est que au niveau des assassins, parce que, comme vous disiez, il pense qu'elle est la meilleure assassin vivante, mais en fait, il n'a pas tellement de points de comparaison. C'est pas une guilde des assassins avec des gens qu'il rencontre. On a l'impression qu'ils sont quand même très solitaires, hein, tous les deux.
Yeah. It's the best yes. yeah, I'm glad you saw that. Yeah. Yeah, he has... He hero worships her, and it never occurs to him that there is a scene in the book where he meets another assassin, and I think you'd pick up that they're equally matched, and kind of she wins, but it might not be. She's not a superwoman. She is very talented, but there are other people out there that are equally as talented, but he can't see that. And never would. And the other thing that I should have said to the other one is when I was talking about my little boy's very confident, and I realised that confidence comes from the fact that he knows that me and his mother are always there, and that is Girton's sort of confidence, is because he might not be aware of it, but he knows she is there, and she is always there for him.
Alors, je suis ravie que vous ayez remarqué ça. Vraiment, lui, il la vénère. Il y a une scène dans le roman où il rencontre un autre assassin. Et les deux assassins se battent, mais c'est juste comme ça. Et en gros, elles sont à peu près au même niveau. Au final, Mirella gagne, mais ça n'empêche que c'est pas Superwoman, parce que c'est pas si flagrant que ça qu'elle est meilleure que l'autre. Et lui, surtout, ne le voit pas comme ça. Lui, pour lui, c'est elle la meilleure, elle a gagné. Il y a un autre point de vue, c'est que je me suis rendu compte, mon petit garçon a vraiment confiance en lui, et je pense que c'est parce qu'il est conscient que moi et sa mère, on est toujours là pour le soutenir. Et je pense que c'est la même chose, Girton, s'il a confiance en lui, c'est parce qu'il sait qu'elle sera toujours là pour lui.
Alors parlons un petit peu maintenant de la mission qui amène Girton et Mirella au château. Ils doivent trouver le commanditaire d'un assassinat dirigé contre le prince héritier. Or, ce prince héritier, Eidor, est une brute.
He's a dick.
Et là, du coup, encore, les valeurs de Girton, qui doit travailler pour le protéger, vont être malmenées, non ?
Yeah. he really doesn't want to, but he has no choice because there are consequences, lethal consequences if he doesn't, and also that there's kind of it's never really talked about, but it is there that clearly Marilla and Ador's mother have a much deeper relationship than he understands. And he knows there's something going on, but everything that's happened there might not just be about this prince. And that's the sort of driving mystery of it, is who wants him dead. But they are a trilogy, and even though that works as a book on its own, those events will come back. And there's more going on than you can see. Oh no, from this book, that's very mysterious, isn't it? It is. It's a mystery. It's meant to be.
Alors, il a vraiment pas envie de protéger Ador, mais il a pas le choix. S'il ne le fait pas, il y aura des conséquences et des conséquences fatales. Alors, c'est jamais vraiment expliqué, de façon explicite en tout cas, mais a priori, il y a un lien entre Marilla et la mère d'Ador, beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Alors, lui, Girton se doute de quelque chose, mais justement, il doit découvrir qui veut tuer le prince, et c'est de là que vient tout le mystère du roman. Mais du coup, oui, cette relation vient d'avant, c'est pas lié au prince, la relation entre Marilla et la mère du prince. Mais du coup, alors donc effectivement, ce roman fonctionne tout seul, hein, vous pouvez le lire tout seul, mais on reviendra quand même à cette histoire dans les romans suivants, parce qu'il y a peut-être quand même encore d'autres détails à rajouter. C'est très mystérieux tout ça, hein. c'est fait pour.
Alors, comme on l'a dit, le héros a une malformation. Mais ce n'est pas tout. Le royaume tout entier est blessé. Pouvez-vous nous parler de cette blessure?
Magic is a fantastic metaphor for many, many things. And in this book, it's kind of, if you want to read into it as an environmental metaphor, you can. But the idea of the Wounded Kingdom, and it takes place that they live in a place called the Tired Lands, which is that was the first thing that jumped into my head, that name, the Tired Lands, and it's based on the North Yorkshire moors in my head. Google pictures of the Hull of Hawkham and you'll see what I mean. The Hull of Hawkham, or the Devil's Punch Bowl, is its other name. It's excellent. And I love that landscape, but it's very sparse and kind of unforgiving looking. And the other thing was that in this world, they're terrified of sorcerers, because the act of creating magic destroys life. If this was all grass and I was a sorcerer and I did a spell, I would steal the life from the grass and the earth beneath me, and nothing would ever grow here again. That was it. It was dead. You can try and feed back to it by bleeding people into it, which is pleasant, but it's a very slow process. And there have been a number of very powerful sorcerers that have risen and used big, big spells. And this is a land that can no longer support the amount of people it has, and there's tremendous pressure on the people. And I would not want to live there, to be honest with you. But yeah, that is its wound. Its wound is magic, which again feeds into the plot of the book, which I will be a bit spoilery if I go any further.
Alice.
I'm in trouble.
Alors, la magie peut fonctionner comme une superbe métaphore pour bien des choses. Et si vous voulez lire le roman comme un roman qui parle de l'environnement, vous pouvez. Alors déjà, il y a le nom des terres. Alors, c'est Tired Lands en anglais. Je crois que c'est les terres rases en français, ou pas du tout. Je ne sais plus. Voilà, donc vous chercherez le nom des terres en français, je suis désolée. Ça ressemble un peu au nord du Yorkshire. Alors je vous conseille d'aller voir notamment des photos de Earl of Hawkham. Voilà, allez voir ça. C'est là-dessus que je me suis basée pour le roman. C'est un environnement assez... comment dire, il n'y a pas grand-chose dedans, on va dire. C'est vraiment... un environnement qui pardonne pas. Enfin, c'est pas très voilà, c'est pas très vert. Et dans le roman, ils sont terrifiés des sorciers parce que quand les sorciers utilisent la magie, ils puisent leur énergie, notamment dans la terre. Donc, par exemple, si devant nous, il y avait plein d'herbes partout, si moi, je lançais un sort assez puissant, tout à coup, il n'y aurait plus d'herbe et on ne pourrait plus rien faire pousser sur, sur cette terre-là. Le seul moyen d'inverser ce fait de puiser la fertilité de la terre, c'est de saigner des gens dessus. C'est sympa hein, comme procédé. Donc, et en plus, c'est super lent. Donc, en gros, il faut saigner beaucoup de gens pour que ça fonctionne. Et donc, il y a eu des puissants sorciers qui ont utilisé beaucoup de magie. Et du coup, techniquement, sur ces terres-là, on ne peut plus faire pousser suffisamment de nourriture pour les gens. Alors, je vous le dis tout de suite, moi, j'aimerais pas y vivre hein, dans ce royaume. C'est juste pas possible. Mais du coup, cette blessure, ce royaume blessé, ça vient de la magie. Ça a aussi une incidence dans l'histoire, mais je ne voudrais pas spoiler la fin du roman.
Alors, sans trop spoiler, est-ce que vous pouvez quand même juste nous dire que la façon dont le héros va se rendre compte qu'il est lié aussi à l'histoire blessée de ce pays ? Un petit peu. Juste un peu.
Linked is a funny word. He's not linked in the that's a hard question. He's not linked in that he's known important in the way often in fantasy books you will have a figure and it turns out that they're the son of a king or the son of a magician. He is nobody. The assassins can do tricks, and there is a reason for that I don't think is that hard for you to work out as a reader, but I'm not going to say it, and he's not clicked to it, and you as a reader will click to it, and it comes as a big shock for him, considering how this place sees people who can do tricks there.
Alors, le terme lien est un terme intéressant. Alors, il n'est pas lié à ce passé dans le sens où ce serait quelqu'un d'important. Ce n'est pas le fils d'un roi, ce n'est pas le fils d'un mage. C'est personne, hein, vraiment. Mais les assassins peuvent faire des tours, ce qu'ils appellent des tours d'assassins. Donc, il y a une raison pour ça. Je pense que vous n'aurez pas trop de mal à deviner la raison pour laquelle il peut faire des tours. Lui, par contre, il percute pas du tout. Le lecteur, oui, mais pas Girton. Et le problème, c'est que quand il va enfin comprendre, ça va vraiment le chambouler parce que, étant donné la façon dont les gens considèrent la magie dans ce monde.
Dans votre monde, pardon, les dieux sont morts et la magie a ravagé la fertilité du pays. Est-ce que vous pensez que des enjeux très importants, très amplifiés, soient nécessaires à un texte de fantasy ?
Non. I would say it's quite a small story in that it's very personal, and there are not. It's a murder mystery. The stakes are: do we find out who wants to kill this person? Do they succeed in that? There's not. I'm not really attracted to massive stories. It's not my thing. I think personal threat is what interests me, and that is it's him that's in danger, and the relationships he makes. I'm trying not to give away the plot. So no, it's not a huge story. It does get a bit bigger in the next one. The next one is about a war, and the stakes are bigger. They're very similar, but a bigger scale. And then in the third one is the largest stakes of all of them. But it's still not sort of like big fantasy books where it's the whole world and there is an evil coming that's going to destroy everything. I don't do that, and I'm not interested in that. It's not my thing. it's all very personal and very particular to the characters, and that's where the interest in it comes for me. I don't think I gave anything away there. Here we go.
Non. Personnellement, j'aime raconter des histoires assez alors petites dans le sens très personnel. Donc là, c'est vraiment une histoire où on essaye de découvrir qui veut assassiner le prince, savoir s'ils vont y arriver. Pour moi, j'aime pas les grandes histoires. Je préfère les gens qui vivent des menaces personnelles. Alors, c'est toujours le problème, hein, je veux vous raconter, mais sans tout vous raconter, parce que sinon, ça ne sert plus à rien de lire le livre. Il y aura des enjeux un peu plus importants dans le deuxième roman, parce que ça va parler d'une guerre. Donc, forcément, les enjeux sont plus importants. Dans le troisième roman, ce sera encore plus grand, mais ça n'empêche qu'on n'atteint jamais le stade du « le monde est en péril, le mal arrive, faut sauver la planète entière ». C'est absolument pas ça que je fais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment des problèmes assez personnels. Je préfère des plus petites histoires entre guillemets. Et bon, j'espère que j'ai pas trop dévoilé.
Dans votre univers, la thématique du masque et du travestissement joue un rôle vraiment important. Merella, l'assassine, se grime en bouffon de cour. Et Girton passe pour un fils de famille prospère alors que c'est un ancien esclave. Tout le monde joue un rôle, hein, non?
Yeah, and the Girton is a killer, and he's very, very good at it. That is his personality. That is how he judges himself and sees himself, and he knows he's good at it. He has no lack of confidence in that way. But he's also emotionally quite immature. And what the book does is less for her. I think in this book she's the less interesting character in this fashion, but because of what he has to do, he has to go undercover basically as a squire who doesn't know how to fight, and he knows enough to know that to pretend he's got a little bit of knowledge, he's going to give it away. He has to pretend to be useless, but that steals everything from him. He's left being not knowing who he is anymore, and he's also in a completely. A situation he cannot understand. He has he's no experience of people his age. He's only ever known adults, and when he's lost in this world, and I think that's really. We've all been in this place where I don't know, maybe going to a new job or something where you can be incredibly comfortable in one place. Like I'm happy to do this and to talk to you. It's my joy is to do stuff like this. But if I was a conference about physics, I'd be hiding in a corner, and it's that feeling that Girton is having to go through. He's everything he is stripped from him, and he has to discover himself again. And that's the kind of journey. I hate saying journey in that way, but it is. It's his emotional journey, and it makes him grow up, and that's what the book is about.
Alors, Girton est un assassin, il est très bon, il se voit comme un assassin, hein. C'est vraiment sa personnalité, il sait qu'il est très bon, il ne manque absolument pas de confiance en lui, par contre, d'un point de vue émotif, il est assez immature. Et c'est un peu moins vrai pour elle, mais lui, vraiment, il doit jouer un rôle, donc il doit jouer le rôle d'un écuyer qui ne sait pas se battre. Il peut pas faire semblant de savoir juste un petit peu, c'est trop difficile en fait. Comme il sait super bien se battre, la seule solution c'est de faire croire qu'il ne sait absolument pas se battre. Et du coup, pour lui, c'est extrêmement difficile parce qu'il sait plus qui il est, parce que c'est vraiment ce qu'il définit, le fait qu'il sache se battre et tuer des gens. Et du coup, il a beaucoup de mal à comprendre la situation, notamment parce qu'il a toujours été entouré d'adultes et il sait pas comment fonctionnent les adolescents. Et là, tout à coup, il se retrouve entouré d'adolescents. Donc il est complètement perdu dans ce monde. Je pense qu'on a tous vécu ça quand on arrive à un nouveau boulot. On a nos zones de confort. Donc là, personnellement, je suis hyper à l'aise. Ça me va bien de vous parler de mes romans. Pas de souci. Ça me plaît. Par contre, si c'était une conférence de physique, je serais en train de me cacher dans un coin parce que j'aurais pas envie de parler. J'y connais rien. Donc du coup, lui, c'est vraiment ce qu'il ressent. Il a l'impression d'être dépouillé de tout ce qu'il est pour lui. Et il doit redécouvrir qui il est, ça l'emmène dans un espèce de, je dirais peut-être pas voyage, mais Vraiment, il réapprend qui il est et il grandit.
Voyage is much better. I'm going to start saying voyage rather than journey.
Dans ce monde, les guerriers chevauchent des montures qui sont un petit peu particulières. Au départ, on croit que c'est des chevaux et en fait, ils ont des bois qui peuvent s'avérer très dangereux dans un combat. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces bêtes et d'où vous est venue cette idée?
Yes, I can. I love them. I know exactly where I got the idea from. There's a comic strip called Slain, and I read it when I was about 15 or 16, and there's a picture of a man on the back of a horse, and he has this mask with massive antlers on it, and that is the image in my head that has led to me becoming quite obsessed with antlers. If you see me about in the signing tent, ask to see pictures of my house. It's just full of things with horns. And I knew when I wrote it, one of the reasons, because I like history. I could have gone history or I could have gone fantasy. But firstly, the plot needs magic to work. And secondly, I wanted people to ride around on things with massive antlers. And it was very important to me. I've also got a wonderful drawing that a friend of mine has done of them. And I'll show anyone who wants to be bored by me talking about it. but yes, and in the second book, we get to see a cavalry charge by two sets of armies on these huge antlered beasts, which ever since they came into my head, it was all I wanted to write. That was just, and there was no excuse for it in this book, so I had to work it into the second one. That was kind of, I think that was the entire plot. I need to have an antler monster fight. They're called war mounts, that's what they are referred to, but I don't think I call them that in this because I've not decided it yet.
Ah oui, je veux bien en parler parce que je les adore. Du coup, je sais exactement d'où me vient l'idée. Alors, quand j'avais 15 ou 16 ans, j'ai lu des BD qui s'appelaient Slain. Et il y avait cette image d'un cheval avec quelqu'un sur son dos qui portait un masque avec des bois. Et depuis, c'est devenu une obsession. Alors, si jamais vous voulez, vous venez me voir. J'ai des photos de ma maison et il y en a partout, des bêtes avec des bois chez moi. oui. Et donc vraiment, n'hésitez pas à venir me voir. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Donc j'ai hésité un moment entre écrire un roman historique ou de la fantasy. Mais déjà, mon histoire avait besoin de magie pour que ça fonctionne. Et surtout, je voulais des bêtes avec des bois. J'ai également un ami qui est artiste et qui m'a fait un super dessin de ces montures-là. N'hésitez pas, pareil, hein, si vous n'avez pas peur que je vous ennuie avec mes discours, vous venez me voir, je vous montre la photo, c'est trop beau. Et dans le deuxième roman, j'ai réussi, parce que j'avais pas moyen de caser ça dans le premier, mais dans le deuxième, j'ai réussi à avoir deux armées qui s'affrontent donc sur ces montures. C'était trop bien à décrire, parce que vraiment, j'avais que ça en tête. Hein, depuis que j'ai vu ces bêtes, enfin les bois, ça m'obsède. Et dans le deuxième roman, je les appelle des montures de guerre, mais j'avais pas encore eu l'idée dans le premier, donc ça doit pas être mentionné.
Helen is wonderful. When we first got here, the first conversation we had was the best way to translate antlers.
Ah, Hélène, elle est trop bien parce que la première conversation qu'on a eue quand on s'est rencontrés, c'était comment traduire les bois. Ouais, parce que antlers, moi, je ne connaissais pas en anglais. Voilà.
Dans une interview vidéo faite pour Orbit, j'ai vu que vous parliez d'un texte d'Enid Blyton, The Folk of the Faraway Tree. Qui avait trois pages manquantes, les trois dernières pages, et vous dites que ça vous avait inspiré pour votre écriture quand vous aviez 6 ou 7 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Yeah, it's about some children that go in a tree that, and at the top of the tree are other lands, and there's Pan Man, Moonface, and Silky, who are kind of strange fairy creatures, and I loved this book when I was little, but for whatever reason my parents gave me a copy that had the last three pages missing, as you said, so I just had to make up the end every time I read it, and every time I read it I make up a different end. I didn't actually write them down because I've always been very lazy, but I did have to think about that, and I think that's kind of forged my imagination at a very young age. And I've also always been surrounded by books have always been there, but I think the urge to make up endings. And sometimes to read books and think this is the wrong ending for this book is all Enid Blyton's fault, really.
Alors, donc c'est l'histoire d'enfants qui montent en haut d'un arbre et il y a trois fées. J'adore ce roman. Enfin, j'adorais quand j'étais petit. Et pour une raison qui m'échappe, mes parents m'avaient donné une version où il manquait les trois dernières pages. Et du coup, à chaque fois que je le lisais, j'inventais une fin différente. Alors, je ne l'écrivais pas parce que je suis trop paresseux. Mais je pense que ça a vraiment forgé mon imagination. En plus, j'ai toujours été entourée de livres hein, depuis tout petit. Mais c'est vrai que j'avais besoin de trouver une fin à cette histoire. J'en ai inventé plein. Et ça m'arrive encore quand je lis un roman de me dire « Non, mais cette fin-là, elle ne va pas. » Et tout ça, c'est la faute d'Enid Blyton.
Vous avez été musicien, donc, comme vous nous en avez parlé, dans des groupes de rock. Est-ce que cette expérience a nourri votre imagination et votre inspiration d'auteur ?
I had a very good time. I'm not sure it was very helpful. I was possibly the worst bass player in Yorkshire. One band I was in, they wanted me in the band because I had great hair, but they used a tape rather than have me play. We should tell you about my level of ability. But they had a tape, yeah.
Oh my God.
Yeah. Yeah, I'm not sure it helped my imagination. I don't think I thought about writing when I was playing. I wrote a lot of lyrics. I should imagine they were terrible and embarrassing if I ever came back to them now. But I like the experience of being on stage. You may have noticed I'm quite shy. I think being in a band on stage helped me be me. In a lot of ways, I would never change the past because I think it makes you who you are. But if somebody said, right, you had to go back and tell your 18-year-old self something, I would say, look, go back to writing, you're going to be better at that. And I kind of think I wouldn't. I had a fantastic time, very drunk, and met a lot of nice ladies. I was generally terribly behaved, but it was fun. Yeah.
Alors, je me suis beaucoup amusée. Je pense pas que ça m'ait servi à grand chose en tant qu'écrivain, par contre. Je pense que j'étais le pire joueur de basse de tout Yorkshire. Non. Il y a un groupe qui a voulu de moi principalement parce que j'avais des super cheveux, mais techniquement ils préféraient passer une cassette plutôt que de me laisser jouer, c'est vous dire à quel point j'étais mauvais. Donc je pense que ça n'a pas vraiment aidé mon imagination à l'époque. J'ai écrit des paroles, ceci dit, mais sincèrement je pense que si je retombais dessus aujourd'hui je les trouverais nulles, mais bon, voilà, c'est écrit. Mais j'ai adoré me produire sur scène, comme vous avez pu le remarquer je suis très timide. Et je pense que vraiment, jouer sur scène, ça m'a beaucoup aidée à me découvrir. Alors, je ne voudrais pas changer le passé, mais si on me demandait ce que j'irais dire à mon moi de quand j'avais 18 ans, si je pouvais remonter le temps pour aller lui parler, je lui dirais, franchement, écris, tu t'en sortiras beaucoup mieux. Mais non, en fait, parce qu'en fait, je me suis tellement éclatée, j'étais souvent bourrée. J'ai eu plein de femmes. Franchement, je me comportais pas forcément super bien, mais je me suis bien amusée.
La traduction française de votre texte, est-ce que c'est la première pour votre livre ?
It's been translated into German as well, and it's, I think it's just come out in Italian, and it's coming out in Polish and Turkish, which was a bit of a surprise, but I think the French translation has the nicest cover. it's beautiful, but it's a huge privilege to get to come over and talk to people, especially because as a country in England we're very bad at learning other languages. Like my French is embarrassing. Bonjour, mes amis. That done. So it is, and it is lovely that people seem to like it as well, and I feel very privileged and touched. It's lovely. thank you. Thank you for coming to look at me. I hope you're not bored.
Alors, ça a été également traduit en allemand. Récemment, c'est sorti en italien. On a vendu les droits aussi pour le polonais et le turc. Et là, je suis un peu plus surpris. Mais franchement, la meilleure couverture, c'est la française. C'est la plus sympa. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir venir en France et vous parler. Surtout quand on considère qu'en Angleterre, on est quand même nul en langue vivante. Moi, mon français se limite à « Bonjour, mes amis !» En français, dans le texte, donc. Et vraiment, je suis super contente de voir que les lecteurs apprécient le roman également. Je vous remercie d'être là. Vous, vous êtes même venu m'écouter. J'espère que vous ne vous embêtez pas trop.
Est-ce que ce sera une trilogie ?
Yes, it is a trilogy. They're all written and finished. The final one comes out in the UK in August. The second one's already out, and I was a bit scared of the second one because it's not the same as that one. I do different things. But my editor in the UK, Jenny Hill, who is wonderful, said shut up, you're wrong. She doesn't mess about. And the reviews have been, if anything, I mean, the reviews for that were very good. The reviews for the second one have been better, which is quite terrifying for the third one, when I don't know if anyone's going to like it, but we'll see. And yeah, it was always seen as a trilogy, and it is. Each book can be read on its own and tells a complete story, but the trilogy is the story of Gerton and Marilla. And one other character who you have met but do not know about yet.
Alors effectivement, c'est une trilogie. Les trois romans sont écrits. Le troisième sort en août en Grande-Bretagne. Le deuxième est déjà sorti. Alors j'ai un peu peur pour le deuxième parce qu'il est assez différent du premier, mais apparemment mon éditeur a l'air content. Là, on commence à avoir des reviews, enfin des critiques, et les critiques sont meilleures pour le deuxième que pour le premier, donc tant mieux. Mais pour le coup, je suis un peu terrifiée pour le 3, parce que bon, faut que ce soit encore mieux. J'ai toujours considéré l'histoire dans son ensemble comme une trilogie. C'est vraiment l'histoire de Girton, de Merella et d'un autre personnage que vous avez rencontré mais que vous ne connaissez pas encore. C'est mystérieux, hein.
Et pour finir, je voudrais vous demander que représente un salon comme les Imaginales pour vous ?
I think the thing it represents is how very similar we all are, and no matter what language we speak or where we're from, that stories are hugely important to us. And also that there is this community of people that love books and fantasy and science fiction. And this is the same people in France as it is in the UK, and they are hugely welcoming and lovely people. And I don't know if you can tell that I'm a goth, but I found it in that community in the UK when I was young. I found a place where I could go and just be a bit odd and no one cared. And that's you too. And it's lovely, and I would hug you all if I was a huggy person, but I'm not that hug. But you're all fantastic.
Alors, ce que ça représente pour moi, c'est que quelque part, nous sommes tous les mêmes, même si nous ne parlons pas la même langue, même si nous ne venons pas du même endroit. Pour nous, les histoires sont importantes, et nous sommes une grande communauté de gens qui aiment les livres, qui aiment la fantasy, qui aiment la SF. Et finalement, on retrouve, enfin, les gens sont pareils, que ce soit en France, en Grande-Bretagne. Vous êtes vraiment hyper accueillants. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis d'un style gothique. Et du coup, j'aimais bien justement me retrouver dans cette communauté en Grande-Bretagne parce que pouvoir être moi-même et être un peu bizarre et que tout le monde s'en moquait, en fait. Et je pense que c'est le cas ici aussi. Et franchement, si j'aimais les câlins, je vous ferais tous un câlin, mais j'aime pas ça.
On va souhaiter une longue vie à votre trilogie, alors.
Thank you. Thank you.
Et bonne fin de séjour ici.
Oh, thank you ever so much. And thank you to Helen. Helen,
merci à Helen.
Can we give Helen a round of applause? And thank you to you as well. You've been fantastic.